monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International. On est le mardi 30 juin, dernier jour du mois. Donc, ça veut dire aussi qu'on fait la dernière émission de la saison, bien sûr. On sera de retour le 15 septembre, mais on vous le redira tout à l'heure sur l'antenne de Principes Actifs, bien sûr. Et donc, c'était notre foire aux livres dimanche dernier. Il y avait Claire Lys qui voulait vous dire quelques mots à ce propos-là.
Eh bien, oui. Donc notre foire aux livres s'est passée pas sous la canicule. Bon, il y avait quand même du soleil l'après-midi, mais on a échappé aux orages et on a eu du beau temps. Et merci à toutes les personnes qui sont fidèles au rendez-vous, qui viennent chercher des livres pour l'été, signer nos pétitions. Et un grand merci aux bénévoles qui sont venus, donc des bénévoles d'autres associations comme le Secours catholique ou le CFED Asti ou les Restos du Cœur. Donc je vais les nommer. Il y avait Armand, Salimata, Martial, Patrick, Françoise, Jean-Pierre. Merci aux jeunes du lycée Sangor, Lénaëlle et Alexandra. Merci à Flora et Alexandre. Merci à Flora qui est une future antenne jeune. Alors c'est pas le même lycée ?
Si, c'est aussi.
Et puis Mina et Ronan qui font partie du groupe mais qui habitent beaucoup sur plus souvent sur Rouen et qui sont venus nous rejoindre pour la foire aux livres.
Un petit coucou rapide, mais voilà. Toujours apprécié.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a passé une bonne journée au soleil, et puis il y a pas mal de gens qui sont venus nous acheter des livres, comme d'habitude, et donc on a eu effectivement, comme disait Claire Lys, beaucoup d'aide, et ça c'est tout à fait sympa.
On a même un monsieur qui est venu exprès de Soissons, qui s'appelle Didier, et qui nous a acheté plein de bouquins, parce qu'il fait toutes les foires aux livres, et il cherche les foires aux livres d'Amnesty.
Alors voilà. Je vais dire aux auditeurs, aux autrices, moi je m'appelle Didier, mais c'était pas moi.
Non, je sais, c'était pas toi.
Bon, voilà. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus nous aider, c'était très sympa et très utile puisque c'est aussi ce qui permet de nous financer. Je vous rappelle qu'Amnesty International, Évreux, comme tous les groupes d'Amnesty et toutes les structures d'Amnesty, fonctionnent sans aucune subvention de qui que ce soit. Voilà, donc c'est le public qui nous finance à travers toutes ces manifestations. Pour commencer l'émission, c'est pas un scoop que je vais vous donner, c'est qu'on sort d'une période de canicule, là, très généralisée, très historique, très longue. Tous les records de chaleur sur la France ont été battus et rebattus et re-rebattus d'un jour sur l'autre. Et donc, et puis on n'est pas à l'abri de retomber à nouveau dans une période de chaleur, si on en croit les bulletins météo en ce moment. Et donc moi je suis tombé, alors c'est pas un texte d'Amnesty, écrit par quelqu'un d'Amnesty, mais le contenu du texte, qui est assez ironique, pourrait très bien être co-signé par Amnesty International. C'était signé par une dame qui s'appelle Yamina Saeb, qui est ingénieure, qui est docteur en ingénierie énergétique, spécialiste des politiques énergétiques et qui est prof à Sciences Po et qui a participé à la rédaction du 6e rapport du GIEC qui est paru il y a quelques années. Et voilà ce qu'elle a écrit à monsieur Emmanuel Macron. Cher Emmanuel Macron, je vous écris de notre cave, seul lieu encore habitable dans notre immeuble parisien. Je relis votre appel à la prudence, à prendre soin des personnes âgées, des plus vulnérables comme des enfants, et à suivre l'ensemble des recommandations du gouvernement. J'en reste abasourdi. Je ne comprends pas qu'un président de la République puisse, une fois de plus, faire peser sur les frêles épaules des citoyens la responsabilité de les protéger, qui est la vôtre. Et je vous imagine sirotant un apéro, loin d'être mérité, dans une pièce climatisée de l'Élysée ou d'un autre palais de la République. Alors j'ai décidé de vous écrire. Cette lettre, vous ne la lirez probablement jamais. Qu'importe, seule l'écriture apaise un peu ma colère. Vous nous demandez la prudence. Mais la prudence de qui, monsieur le Président ? Celle des citoyens qui n'ont jamais voté pour 4 degrés de réchauffement ou celle d'un État qui, année après année, choisit de ne pas agir sur la cause. On ne se met pas à l'abri d'un climat que l'on continue de dérégler. On ne boit pas de l'eau pour réparer des décennies d'inaction climatique. Cette canicule n'est pas une fatalité météorologique. Elle est la conséquence directe et mesurée de votre décision de nous enfermer dans le capital fossile. Nous l'avons écrit noir sur blanc dans les rapports du GIEC. Vous le saviez, nous le savions tous. Ce qui nous accable aujourd'hui n'est pas une surprise. C'est un rendez-vous que vous, avec d'autres responsables politiques, avez choisi de ne pas honorer. Et que proposez-vous face à cela ? De nous adapter à une France devenue fournaise, comme si l'on pouvait s'adapter sans fin à un monde que vous vous obstinez à rendre invivable. Je vous écris enfin parce que je ne sais pas comment expliquer à un enfant de 6 ans que les adultes savaient et qu'ils ont préféré l'apéro à l'action. Je ne sais pas pour vous, moi je refuse de léguer à mon fils un pays où le seul refuge est le sous-sol et comme seule consigne, la débrouille. Nous finirons bien par remonter notre cave, mais je n'oublierai pas qui m'y a laissé. Votre inaction climatique, cher Emmanuel Macron, celle qui vole à nos enfants le droit de vieillir sur Terre. Voilà, je trouvais quand même que ce texte était très très bien vu, très complet, et voilà. Et qui ne peut qu'engager tout le monde à agir avec toutes les ONG qui s'occupent de la question, dont Amnesty, mais pas que Amnesty.
Non.
Et encore une fois, il faut se bouger. Voilà. On va changer complètement de sujet. C'est Edith qui va vous parler de la venue en Europe des talibans. Ouais,
oui.
Vous en avez peut-être entendu parler. Bah, mais pour commencer... Oui, vas-y.
D'accord. Ouais, c'est ce que j'avais choisi de parler, effectivement, de cette venue très compliquée et on va dire qui me choque énormément des talibans à Bruxelles. Et ce matin, dans ma voiture, effectivement, je prends des fois ma voiture, même avec le réchauffement climatique, voilà, j'allais un peu plus loin, j'ai entendu la chronique de Charline Van Hennecker et on a décidé de vous la passer. Après, je reprendrai la parole.
Donc, c'est tout de suite.
Charline, alors, votre sujet du jour est brûlant. Il y a des talibans à Bruxelles. La semaine dernière, la Commission européenne a invité une délégation de 5 représentants du régime taliban en catimini.
Chut, Sonia ! Mais vous savez ce que ça veut dire en catimini ? Ça veut dire qu'il faut surtout pas que ça sache !
Ah bah voilà, maintenant c'est trop tard, c'est foutu, hein, bien joué ! Cela dit, comment ça s'organise une visite de talibans en catimini, c'est ça ? Au moment de briefer les agents de sécurité à l'aéroport de Bruxelles.
Alors aujourd'hui, on va faire comme tous les jours en empêchant des terroristes d'entrer sur le territoire. Sauf un petit groupe de 5 que eux, il faut les laisser passer, ce sont nos invités. Des questions ? L'Europe les a invités pour négocier l'expulsion de 72 prisonniers afghans vers Kaboul. Donc ils ont été reçus comme n'importe quel autre dirigeant. Mis à part le fait qu'Ursula von der Leyen a dû se dessiner une moustache et dire qu'elle s'appelait Friedrich. Mais à part ça, le protocole est resté le même. Cela dit, s'ils oppriment les femmes dans leur pays, peut-être que quand ils sont à l'étranger, ils se comportent en véritable gentleman.
Friedrich !
Mais on ne sait pas, Sonia ! On n'a pas essayé ! Donc l'Europe, il y a 2 semaines, elle vote la mise en place de mesures drastiques pour expulser les réfugiés, et dans la foulée, elle décide d'octroyer un petit visa des talibans. Alors, un visa de 24 heures, hein, parce que quand même, ils sont sous le coup de sanctions de la Cour pénale internationale et sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Donc j'imagine qu'à la Commission, ils ont dû débrancher les portiques de sécurité à l'entrée. Ah bah sinon, ça sonnait dans tous les sens. Hein. Alors résultat, toutes les conditions sont réunies pour que Poutine vienne passer un petit midweek en famille à Bruxelles.
En catimini.
En 24 heures, j'espère que les talibans en ont profité pour se balader un petit peu à Bruxelles. Un petit moule frites. Une croquette aux crevettes. J'espère qu'ils ont pu profiter du spa à l'hôtel. Ben alors le choc culturel. Ils se sont dit, hey, vous avez vu ? Ici, les pierres, ils les utilisent pas pour la lapidation, ils font des massages avec. Et ils les chauffent avant en plus. C'est bien ça, on va essayer en rentrant. Hein. Et faites attention à pas vous brûler. Hein. Oui, mais c'est un petit peu douillet le taliban, je pense. Bref, les autorités européennes expliquent que c'était juste une réunion technique. Vu que les règles européennes en matière d'immigration sont de plus en plus inhumaines, ils se sont dit, autant faire venir des experts en barbarie. Oui. De toute façon, quand tu mets le terme technique en diplomatie, ça minimise la rencontre. Hein. On le fait tous à notre échelle. Vous voyez. Pour vous donner un exemple, quand on invite des gens par courtoisie, mais qu'on n'a pas envie que ça s'éternise, plutôt que de proposer à dîner, on propose un apéro dînatoire.
La semaine dernière, tu m'as invité à un apéro dînatoire, Charline.
Ah
Ouais. Bah, si tu veux dimanche, je t'invite pour un brunch.
C'est pire.
Bon, écoutez, Daphné, il n'y a plus grave dans la vie. Le régime taliban a été invité au cœur de l'Europe, là, Daphné, réagissez, bon sang. Ça, c'est grave. T'imagines un petit peu les négociations avec eux quand on dit tu leur donnes la main et te prennent le bras. Ça n'est pas qu'une image. Je vais conclure. Oui. Pour espérer établir un dialogue constructif avec les talibans, la seule façon, je pense, c'est de se voiler complètement la face.
Aïe, aïe, aïe. T'as intérêt à m'inviter à
dîner. N'importe quoi, je suis payé pour n'importe quoi.
Ah, Burki en guest.
Voilà, c'était donc la chronique de Charline Van den Ecker ce matin sur France Inter. Et donc,
Je reprends.
Bon, donc, t'as pas l'accent, toi ?
Non, j'ai pas l'accent. Et puis, j'ai trouvé que le texte, c'est ce qu'il disait, c'était la honte de recevoir les talibans à Bruxelles, la problématique des expulsions illégales des ressortissants talibans afghans, qui doivent cesser, les personnes ayant besoin de protection internationale. Et alors, ce que j'avais vu aussi, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est que les talibans, là, ces gentils messieurs qui sont venus s'installer un peu à Bruxelles, même pour 24 heures, ils ont augmenté un petit peu les lois contre les femmes. Bah oui, il n'y en avait pas encore assez au niveau de l'Afghanistan. Donc, un petit florilège non exhaustif des derniers éléments du nouveau règlement pénal. Alors, les femmes ne sont considérées comme victimes de violences domestiques que lorsqu'elles ont subi une fracture ou des blessures visibles. Les femmes peuvent être condamnées à 3 mois d'emprisonnement si elles rendent régulièrement visite à des membres de leur famille sans autorisation de leur mari. Légitimation des mariages arrangés pendant l'enfance et restriction de la capacité des femmes et des filles à contester ou à quitter de telles unions. Voilà. Donc, on va dire que tout devrait être fait pour y mettre fin. Et j'ai aussi, on a parlé à un moment, c'est moi qui avais parlé à la radio il y a quelques mois, d'une jeune femme qui était réfugiée en France et qui disait « Ce qu'il ne faut jamais franchir, c'est la ligne de recevoir les talibans parce qu'on leur donne une légitimité et on oublie le sort des femmes. » Et ben voilà, c'est fait. Merci l'Europe.
C'est clair. Ce que tu viens de dire, Edith, ça me fait penser à ce qu'on disait à la dernière émission avec sur un autre sujet, avec Claire-Lise, le vote à l'Assemblée nationale pour supprimer le code noir.
L'abrogation,
merci, je cherchais le mot. L'abrogation du code noir, qui, encore une fois, considérait que les esclaves noirs étaient des biens meubles, c'est-à-dire faisaient partie du mobilier. Et bien, pour les talibans, les femmes, c'est tout à fait assimilable à un bien meuble.
Et à partir du moment où on ne le fait pas remarquer aux talibans, c'est comme si on, comme elle dit, on se voile la face ou on l'accepte. Et tout ça pour envoyer des Afghans dans leur pays où on sait pertinemment qu'ils vont être considérés comme des traîtres à la patrie, si on peut dire patrie, et que leur sort va être excessivement compliqué.
Ouais. Puis moi, je répéterai encore une nouvelle fois, je le dis à chaque fois qu'on parle d'hommes qui oppriment des femmes de cette façon-là, de façon absolument insupportable, que de toute façon, ces hommes-là, moi, en tant qu'homme, ils me salissent. Ça, c'est clair. Voilà, on va changer de sujet. Claire-Lise, voulez-vous parler de... On l'avait déjà évoqué dans d'autres émissions, mais il y a pas mal de temps.
Mais justement, de la frappe on est aux 4 mois après.
C'est ça.
Après la terrible frappe aérienne sur l'école de Minab, l'établissement des responsabilités se fait attendre. Donc, c'est la guerre, bien sûr, Iran-États-Unis. Ouais. Et ils avaient effectivement... toucher une école qui a tué plus de 150 personnes, dont 120 enfants. Donc Amanda Klasing, directrice nationale des relations avec le gouvernement et du plaidoyer à Amnesty International États-Unis, a déclaré « 4 mois se sont écoulés depuis la frappe la plus meurtrière menée par les États-Unis contre des civils dans l'histoire récente. » Nous ne sommes pourtant pas plus près d'obtenir de la part des autorités états-uniennes des réponses permettant d'expliquer pourquoi cela est arrivé et qui était responsable. Pourquoi cela prend-il si longtemps ? Le public et les familles des victimes méritent des réponses transparentes et l'établissement des responsabilités, et les familles doivent obtenir vérité, justice et réparation. Le président Trump a fait des déclarations contradictoires. Le Pentagone ne coopère pas avec le Congrès et les législateurs et le public sont de plus en plus excédés par les réponses répétitives du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et d'autres, selon lesquels cet événement continue à faire l'objet d'une enquête. Donc, Amanda Classing d'Amnesty International dit « Nous savons la chose suivante. L'armée des États-Unis est responsable de la mort de plus de 150 personnes dans cette attaque menée avec des missiles Tomahawk à guidage de précision contre une école où se trouvaient de nombreux enfants. Que le Pentagone ait utilisé l'intelligence artificielle ou non, lorsque cette école a été prise pour cible, il n'a très clairement pas appliqué toutes les précautions possibles afin de prévenir ou de limiter les dommages causés aux civils lors de cette attaque. Il ne fait aucun doute que les États-Unis auraient dû savoir que ce bâtiment était une école et non pas une cible militaire. Après la frappe, Amnesty International, les médias et d'autres organisations ont rapidement pu confirmer que ce bâtiment était une école et ce depuis des années. Le Pentagone, qui dispose de capacités et de technologies de collecte de renseignements largement plus avancées, était indéniablement capable de recueillir et de vérifier ces mêmes informations, ce qui aurait dû conduire à la décision de ne pas frapper l'école. Nous ne disposons par ailleurs toujours d'aucune information complémentaire sur la possibilité que l'intelligence artificielle ait été utilisée dans le cadre de la décision concernant la cible. Le président-directeur général d'Anthropic a reconnu dans un entretien accordé à l'agence France-Presse Bloomberg qu'il ne sait pas si ni comment le logiciel d'intelligence artificielle de son entreprise a pu être utilisé afin de sélectionner des cibles dans le cadre d'attaques menées par les États-Unis contre l'Iran. Mais il s'est hâté d'attribuer la responsabilité à l'armée, en particulier à un humain qu'il n'a pas nommé, chargé de prendre la décision finale en ce qui concerne les cibles. Malheureusement, l'horreur qui s'est abattue sur Minab n'est que le dernier exemple en date des homicides de civils perpétrés par l'armée des États-Unis depuis que Donald Trump et Pete Hegseth sont arrivés au pouvoir et ont fortement réduit au cours de l'année écoulée les budgets des programmes du Pentagone visant à limiter les atteintes aux civils dans le cadre d'opérations militaires. Il nous faut des réponses maintenant. L'armée a déjà eu 4 mois pour expliquer ce qui s'est passé. Le Pentagone doit terminer son enquête en urgence et rendre ses conclusions publiques. L'enquête doit prendre en considération la collecte et l'analyse de renseignements par l'armée, ainsi que les décisions relatives aux cibles, les précautions prises et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Lorsque les éléments de preuve suffisants existent, les autorités compétentes doivent traduire en justice toute personne soupçonnée d'être pénalement responsable. Le Pentagone doit aussi rétablir les mesures d'atténuation et de prise en charge des préjudices causés aux civils et garantir le respect du droit international humanitaire dans le cadre des opérations militaires, notamment lorsque l'IA est employée dans le but de prévenir de futures violations. S'en abstenir reviendrait à essayer d'étouffer une violation grave du droit international humanitaire et constituerait une trahison des victimes et des rescapés de cette terrible attaque. Donc des civils iraniens ont subi de graves préjudices lors de salves et de frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël entre le 28 février et le 7 avril 2026. Selon les chiffres officiels, ces frappes ont fait 2362 morts, dont 383 enfants, et plus de 32 314 blessés, tout en causant des destructions et des dégâts considérables aux infrastructures civiles. Dès le jour de la frappe à Minab, dans la province du Hormozgan, le 28 février 2026, le public et les législateurs des États-Unis ont réclamé une enquête. Le 10 mars, une porte-parole de la Maison-Blanche a confirmé que des enquêtes sur l'attaque contre l'école étaient en cours et que le ministère de la Défense diffuserait un rapport complet. La semaine dernière, Donald Trump a déclaré que l'enquête se poursuivait et que la frappe n'était pas intentionnelle et il a invité Pete Hegseth à répondre aux questions sur le sujet. Tandis que l'on reste sans réponse de la part du Pentagone, la commission sénatoriale sur les services armés a adopté sa version de la loi de prérogatives de la défense nationale qui limite les fonds alloués au secrétaire Hexet pour ses déplacements jusqu'à ce qu'il diffuse les conclusions de l'enquête sur la frappe contre l'école de Minabe ainsi que celle des deux enquêtes sur deux cas distincts de dommages civils au Yémen et la version intégrale et sans montage de vidéos de frappe contre des bateaux dans les Caraïbes et dans le Pacifique Est. Parallèlement, Dario Amadeo, le PDG d'entreprise, donc, a déclaré que si Claude, le logiciel d'IA, parce qu'il a un joli prénom, hein, de son entreprise a été employé dans cette frappe, il ne s'agit pas d'une violation des lignes rouges établies pour son utilisation, parce que c'est un humain qui a pris la décision, pas Claude.
Ben oui, bien sûr.
Voilà. Donc, bon, j'ai trouvé que c'était quand même assez fou, quoi, parce que, en fait, on peut toujours attendre les résultats de l'enquête. Je pense.
Tout à fait. Et puis bon, juste pour un petit commentaire, quand l'actualité effectivement nous parle de mort absolument insupportable d'enfants dans la société civile, quel que soit le pays, tout le monde s'en indigne à juste titre. Mais là, il faut rappeler quand même que c'était 150 enfants qui ont été tués suite à un bombardement qui était tout sauf justifié, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et c'était une école de petites filles.
C'est ça. Donc voilà, il n'y a pas de il n'y a pas lieu de s'apitoyer dans un cas et pas dans l'autre. Enfin, s'apitoyer, c'est pas le bon terme, mais je cherche mes mots ce soir. De se révolter.
Voilà, c'est la chaleur.
Il n'y a pas lieu de se révolter dans un cas et pas dans l'autre. Il faut se révolter par toutes les atteintes aux droits des enfants. On va passer
la pause musicale.
La première pause musicale. On se retrouve juste après.
Il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. On remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. que demain peut tout empirer. Tu vas pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission sur la promotion et la défense des droits humains. On vient d'écouter une chanson qui a plus de 10 ans maintenant, mais qui est toujours d'actualité, surtout par rapport à la canicule. C'était facile de faire le lien. C'est une chanson de Mickey 3D et ça s'appelle Respire. Et donc, c'est Claire Lise qui avait la parole juste avant la pause musicale et qui va la garder pour la suite.
Que le langage, ça s'apprend, la parole, ça s'apprend.
C'est ça.
Alors, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur la progression des mouvements anti-genres en France. Donc, dans un rapport publié ce 25 juin, Amnesty International dresse un panorama inédit des mouvements dits anti-genres, de leur financement, de leur réseau et de leur stratégie d'influence. Donc, Amnesty décrit un mouvement transnational structuré qui cible les droits des femmes et des personnes LGBTI+, et dont la France constitue désormais l'un des principaux points d'ancrage en Europe. Et ça fait froid dans le dos.
C'est la même chose.
Tu vas me laisser faire ma chronique?
Mais oui. Bon, nous allons reparler de la même chose
c'est
après.
Pas possible. Voilà. Donc, au lendemain de la publication du rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat sur les réseaux masculinistes, Amnesty donc tire à son tour l'alarme. Dans ce rapport, Amnesty élargit le constat à l'échelle internationale. Des attaques contre les droits à l'avortement, aux campagnes de harcèlement visant les associations féministes et LGBTI+, en passant par le financement d'organisations conservatrices et les offensives législatives menées dans plusieurs pays. Donc Amnesty estime que les mouvements anti-genres ont changé d'ampleur. Longtemps perçus comme des mobilisations dispersées, ils constitueraient désormais un réseau transnational, structuré, doté de moyens financiers importants et d'une stratégie politique assumée. Donc c'est une internationale conservatrice contre les droits des femmes et des personnes LGBT qui est en train de se former. Donc dans cette étude, Amnesty met en lumière ce qu'elle décrit comme une offensive coordonnée, donc contre les droits des femmes et des minorités sexuelles dans de nombreux États, fondations privées, organisations religieuses, groupes militants et influenceurs participeraient à un même mouvement visant à remettre en cause les avancées obtenues ces dernières décennies en matière d'égalité de genre, de droits reproductifs et de reconnaissance des personnes LGBTI+. Donc le mouvement anti-genre est une menace bien réelle qui prend une ampleur inédite et inquiétante en France, affirme Anne Savinel Barras, présidente d'Amnesty International France, dans un communiqué de presse. Le gouvernement doit prendre des mesures efficaces pour lutter contre les discours et les acteurs hostiles aux droits des femmes et des personnes LGBTI+. Selon Amnesty, les mêmes mécanismes se retrouvent d'un pays à l'autre. Remise en cause du droit à l'avortement, restriction des droits des personnes transgenres, attaque contre les programmes d'éducation à la sexualité ou encore tentative de redéfinition des normes internationales relatives aux droits humains. Les États-Unis de Donald Trump, la Hongrie de Viktor Orban,